Vous écoutez Radio France Internationale, il est minuit ici à Paris, 23h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de l'actualité, l'Ukraine rapporte une frappe russe contre un hôpital de campagne dans la région de Kharkiv, symptôme de l'intensification des combats alors que les négociations font du surplace. Le Hamas palestinien accepte une proposition de trêve soumise par les médiateurs égyptiens et qataris, mais pas question de toucher aux armes du mouvement. Branle-bas de combat en Birmanie après le violent séisme de vendredi, la junte appelle à l'aide et attend l'arrivée des soutiens internationaux. Journée de manifestation en Turquie pour dénoncer l'emprisonnement du maire d'Istanbul. Selon un spécialiste, c'est le début d'un bras de fer de longue haleine. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la présidente de l'université Columbia jette l'éponge. La prestigieuse institution new-yorkaise est dans le viseur du président Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Après une attaque au drone sur Dnipro dans la nuit de vendredi à samedi, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir frappé un hôpital militaire à Kharkiv dans le nord-est. Selon les premiers rapports, des victimes sont à déplorer parmi les militaires qui étaient soignés sur place. Cette accusation intervient alors que l'administration américaine fait pression pour une fin rapide de la guerre en organisant des pourparlers indirects avec des responsables russes et ukrainiens. Pourparlers qui n'ont pour l'instant abouti à aucune percée concrète, les deux parties ont accepté le principe d'une trêve en mer Noire, mais Moscou a ensuite posé des conditions, notamment la levée de sanctions occidentales qui ne semblent pas pouvoir être acceptées à court terme. Dans une allocution samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que Moscou n'a pas apporté de réponse adéquate aux initiatives américaines pour négocier un cessez-le-feu, faute de réelle pression exercée sur elle.
La Russie doit être contrainte à la paix. Seule la coercition fonctionnera. Depuis trop longtemps maintenant, la proposition américaine d'un cessez-le-feu inconditionnel est sur la table, sans réponse adéquate de la Russie. Cela en dit long. Il pourrait déjà y avoir un cessez-le-feu s'il y avait une réelle pression sur la Russie.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Autre terrain de guerre, autre négociation. Samedi soir, le Hamas palestinien a accepté une proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris. Dans une déclaration télévisée, le haut responsable du mouvement palestinien Khalil al-Aya a toutefois averti Israël. Le désarmement du mouvement islamiste est une ligne rouge. L'État hébreu n'a pas encore donné réponse à cette proposition. Au Proche-Orient, toujours, le Hezbollah dénonce une agression inacceptable au lendemain de frappes israéliennes dans le sud du Liban et en banlieue de Beyrouth. L'État libanais doit réagir, a affirmé le chef du mouvement Naïm Qassem. Il a également affirmé que si le mouvement n'obtenait pas de résultats sur le plan diplomatique, il faudra revenir à d'autres options. Vendredi, l'État hébreu a bombardé le Liban pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'une trêve en novembre. L'armée israélienne dit avoir répliqué à des tirs de roquettes que le Hezbollah n'a pas revendiqué. En Birmanie, c'est la course contre la montre après le séisme monstre qui a secoué le pays vendredi. Le bilan officiel de la junte s'est alourdi à plus de 1640 morts et 3400 blessés. La région de Mandalay au centre du pays est la plus touchée. Pierre-Olivier, le gouvernement militaire attend maintenant l'arrivée de l'aide internationale.
Fait rarissime, le chef de la junte appelle tout pays et toute organisation à apporter son secours à la Birmanie, d'habitude extrêmement fermée. De son côté, l'opposition armée annonce cesser ses actions de résistance pendant les deux prochaines semaines dans les zones les plus touchées. Car pour les secouristes, la tâche s'annonce immense. Des centaines de personnes seraient coincées sous les décombres. L'étendue du désastre est encore difficile à évaluer. L'aéroport de Mandalay, la deuxième ville du pays, n'est plus en état de fonctionner et c'est par la route sur 700 km que les secours devront accéder aux zones les plus impactées. Pour l'instant, la Chine dit avoir envoyé 82 sauveteurs. L'Inde a pour sa part affrété un avion vers Rangoon avec du matériel de premier secours. La Corée du Sud, la Malaisie, les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé ont également annoncé leur aide. Un peu partout dans le monde, des équipes de sauveteurs se tiennent prêtes à intervenir, mais pour l'instant, les formalités de visa semblent freiner leur arrivée.
Le compte-rendu de Pierre-Olivier. En Syrie, le président par intérim, Ahmad al-Sharr, annonce la formation d'un nouveau gouvernement. Les ministres sont annoncés au compte-gouttes. Pour l'instant, la nouvelle équipe est constituée de fidèles du nouvel homme fort de Damas, un gouvernement qui compte au moins une femme. Ahmad al-Sharr affirme vouloir édifier un État fort et stable depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier. C'était une administration transitoire qui avait été mise en place. En Guinée, la grâce présidentielle surprise de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara provoque des réactions contrastées dans le pays. Samedi, ses soutiens se sont rassemblés pour fêter sa libération devant son domicile en banlieue de Conakry, la capitale. Des proches de l'ancien président parlent d'une joie indescriptible. De son côté, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen dénonce une atteinte à la dignité des victimes du régime de Camara. Moussa Dadis Camara avait été condamné à 20 ans de prison en juillet dernier pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. En Turquie, des centaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues d'Istanbul samedi à l'appel de l'opposition. Protestation pour dénoncer l'emprisonnement du maire de la capitale, Ekrem İmamoğlu, arrêté dimanche dernier. Le parti d'opposition auquel appartient le maire d'Istanbul a avancé le chiffre de 2,2 millions de manifestants. Ce rassemblement hors norme n'est que la première étape d'une longue série selon Ahmet İnsel, éditeur et professeur retraité de l'université de Galatasaray.
La seule manifestation ne peut pas faire évoluer la situation puisque Tayyip Erdogan a trop avancé et ne peut plus reculer et ce sera une vraie défaite pour lui. Malheureusement, il a été trop loin dans la suspension des bribes de démocratie qui restent en Turquie. Mais évidemment, ça va augmenter la popularité de İmamoğlu et par ricochet, c'est pas simplement İmamoğlu, mais c'est son parti, le Parti républicain du peuple, qui arrive à mobiliser et qui arrive à coaguler le mécontentement contre Tayyip Erdogan. Mais en même temps, on voit bien que c'est une course de moyenne haleine, si ce n'est longue haleine, qui s'est engagée, puisque le président du parti, Özgür Özel, a annoncé que désormais, il y aurait un meeting les mercredis dans un arrondissement d'Istanbul et tous les samedis dans une ville du pays. Donc là, nous rentrons dans un bras de fer de longue haleine.
L'analyse du professeur retraité Ahmet İnsel. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses proches alliés. Après la visite du vice-président américain au Groenland, le Danemark critique le ton employé par l'administration Trump. Vendredi, J.D. Vance a affirmé que le Royaume européen n'avait pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. Une raison de plus, selon lui, pour que les Américains mettent la main sur cet immense territoire de l'Arctique. Washington, qui s'attire également les foudres du gouvernement français, samedi, le gouvernement a dénoncé une ingérence inacceptable et assure que la France et l'Europe défendront leurs valeurs. Cette semaine, l'ambassade des États-Unis à Paris a fait parvenir une lettre à plusieurs entreprises françaises. Le message, renoncez à vos programmes d'inclusion et de diversité ou vous risquez de perdre vos contrats avec l'État américain. Et l'administration Trump, qui mène sa guerre idéologique dans son propre pays, l'une de ses cibles de choix, l'Université de Columbia, Catherine Armstrong, la présidente par intérim, a annoncé sa démission. Récit Vincent Sourio.
Aux yeux de la Maison-Blanche, Columbia fait partie d'une ligue d'universités classées à gauche que les milieux conservateurs et l'administration Trump taxent de foyers antisémites depuis les manifestations pro-palestiniennes qui ont suivi la guerre à Gaza. Pour faire plier la faculté, le gouvernement américain s'en est pris à ses finances. 400 millions de dollars d'aide fédérale supprimés au début du mois de mars, assortis d'une forme de chantage. Pour revoir un jour cet argent, vous devez prendre des dispositions radicales. Restriction des masques sur le campus afin d'identifier les manifestants, instauration d'une police universitaire et nomination d'un nouveau responsable des études sur le Proche-Orient. Pour maintenir l'équilibre financier de Columbia, Catherine Armstrong a choisi de signer cet accord, mais à ce stade, rien ne garantit que ces concessions suffiront à combler l'appétit de Donald Trump, alors que les subventions publiques représentent autour de 20% du budget de fonctionnement de l'université. Les Républicains au Congrès préviennent déjà qu'ils ne vont pas relâcher la pression et que la nouvelle titulaire du poste, une journaliste de formation, sera elle aussi surveillée de très près.